Bonjour à tous. Bonjour Jean-Gilbert. Bonjour aux amis. Que Dieu vous bénisse. Qui on a d'autre? On a Rachel. Bonjour Rachel. Que Dieu te bénisse. Bien entendu, bien bonjour aux sœurs qui sont connectées avec toi. Et voilà Néma qui vous dit bonjour. J'espère que vous allez tous très bien en ce mardi 31 août 2021. Bonjour Yolaine, que Dieu te bénisse. Je ne sais pas si Mildred est à tes côtés ce matin. Si elle est à tes côtés, on la salue. Alors, je vous invite à mettre quelques petits mots dans la zone commentaire. Je ne vois pas tout le monde. Donc, j'ai salué 3 personnes, mais vous êtes déjà 6. Donc, ce matin, je ne reçois que la moitié. Demoiselle veut de l'attention. Ok, couchez, c'est fini. Couchez, c'est fini. Couchez. Non. Ça, c'est dommage que ma mère et mon père ne sont pas déjà connectés. Ma mère serait très contente. Je vais peut-être enlever le. Je vais voir. On va enlever ça. Bon, je pense que c'est peut-être mieux comme ça. Non, c'est pas mieux comme ça. Donc, on va rallumer la lumière. Voilà. Bonjour Guy, sois béni. Que tu aies une belle journée aujourd'hui. Mardi pluvieux. Mercredi pluvieux, en fait. J'ai dit qu'on était mardi. Hein. On est mercredi. Est-ce que je me suis trompé dans le commentaire de ce matin? Eh bien entendu, je me suis trompé dans le commentaire de ce matin. Je me suis très, très sévèrement trompé. Je vais même l'effacer. On va le modifier, en fait. Donc, on est mardi le 8 septembre, le 31 août. Ça fait longtemps que c'est fini. 8 septembre. Waouh, waouh, waouh. Voilà. Donc, c'est mis à jour. Qui en a d'autre? La sœur Florie, bonjour. Et enfin, Louis aussi. Natacha, bonjour. Indirène qui doit être bientôt sur le départ vers le travail. On le salue aussi. C'est moi qui suis trop fatigué, Natacha, ça doit être ça. Je me gourre. Ah là là. Bonjour Sylvie. Bon matin, bienvenue parmi nous. Donc pour ceux qui se joignent à nous, vous ne vous êtes pas trompés. On est mercredi. On est le 8 septembre. C'est moi qui avait la tête ailleurs. Donc, bien bonjour à vous tous. Salut Daniel, content de te voir avec nous ce matin. Sois béni. Bonjour Thérèse, 8h25. Donc, ce matin, on continue notre étude de Jean 13 qu'on a débuté hier. Et là, je ne me trompe pas, c'est vraiment Jean 13 qu'on étudie ce matin. J'ai fait gaffe sur gaffe depuis le début. Bonjour Gérard, bonjour Denise, soyez bénis. Êtes-vous toujours à Matane ou vous êtes de retour à Valmorin? Guy, il faudrait peut-être que tu réactualises ou actualises ta connexion. Donc, juste cliquer sur réactualiser pour te mettre à jour et je pense que ça irait. C'est une tasse. Salut Alex, c'est une tasse qui nous vient de Nespresso. Parfois, quand tu achètes une certaine quantité de capsules, ils te donnent des petits items. Donc, j'ai eu 4 tasses comme ça il y a quelque temps. Je trouve que c'est un petit style asiatique. Donc, qui me plaît bien, disons. Merci Daniel. Vraiment, vraiment content de te voir avec nous ce matin. Et le café au lait est particulièrement apprécié ce matin. Je ne déjeune pas habituellement, à moins que ce soit le week-end pour déjeuner avec Daphné, mais sinon je ne déjeune pas. Mais le café, le matin, il est toujours là. En fait, quand je me lève à 5 heures, je donne à manger à Nema, je prends mes premiers médicaments de la journée, et puis je prépare 2 petites tasses d'espresso, une pour moi et une pour Daphné. Donc, c'est comme ça que je démarre la journée. Donc, je donne le café à Daphné, je bois le mien, je sors mes mains, je m'en prépare une autre pendant qu'elle est dehors et je la rejoins dehors. Donc, j'ai déjà, avant 5h30, j'ai déjà deux espressos dans le corps. Puis, un peu plus tard, lorsqu'on fait la bénédiction matinale, ben là, je prends un café au lait. Quand je suis ici. Sinon, habituellement, ça va être aussi soit le café au lait pendant la diffusion, sinon ça va être un thé gingembre. Donc encore une ou deux minutes. Encore une fois, je suis désolé du lapsus de tout à l'heure. Je vous ai dit qu'on était mardi le 31 août. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas. On est mercredi le 8 septembre. Oui, c'est le bonjour. C'est le bonjour. Il y a des gens que j'ai oublié de saluer, que j'ai pas vu passer. Non, je pense pas. Fatigué un peu. Fatigué un peu. Un peu beaucoup. Ou beaucoup un peu. Voilà. Donc, on va prier. Et après ça, on lit le passage du jour dans Jean au chapitre 13. Puisque c'est ce que nous étudions tout au long de cette semaine. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour cette occasion de plonger nos regards dans la richesse et dans la profondeur de ta parole. Celle-ci, Seigneur, est une source d'encouragement, une source de bénédiction et surtout, Seigneur, une source d'instruction pour nous tous. Donc, nous prions, Seigneur, que tu nous bénisses par ta présence, mais que tu nous bénisses aussi par une onction toute particulière qui ouvre notre entendement à ta volonté, à tes plans et à tes projets. Nous prions aussi, Seigneur, que tu trouves en nous un cœur qui t'est disposé, un cœur qui est désireux de recevoir de toi, d'entendre ta voix et de se soumettre, Seigneur, à ta parole. Nous savons que parfois ta parole vient nous encourager, parfois elle vient abroger, changer, transformer des voix qui ne te glorifient pas. Alors ce matin, nous te donnons complète liberté pour faire ce que tu sais nécessaire, ce que tu sais approprié dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère et dans ma propre vie. Et qu'en toute chose, que toute la gloire, que tout l'honneur, que toute la puissance te reviennent à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le précieux et merveilleux nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, on aborde un thème que les gens n'aiment pas entendre, surtout dans une société nord-américaine, voire occidentale, très, très prompt à la démocratie et tout ça. Et on a voulu, à cause d'abus qu'il y a pu y avoir dans le passé, on a comme jeté le bébé avec l'eau du bain. La notion qu'on aborde aujourd'hui, c'est la question de l'autorité. Hier, on a vu un peu Jésus comme le Seigneur, plutôt comme le Messie, celui qui avait été annoncé et qui assumait son rôle de Messie, de Seigneur et de Sauveur auprès de ses disciples, mais auprès de tout un chacun qui le reconnaîtrait effectivement comme Seigneur et Sauveur. Ce matin, on aborde une deuxième phase. On présente Jésus comme un maître et un Seigneur. On se rappelle, hier, il a lavé les pieds de ses disciples et on a terminé avec la phrase dans Jean au chapitre 13, le verset 12, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Et ce matin, donc, on va expliquer ce verset 12 en continuant jusqu'au verset 17 dans notre lecture. Alors, je vous invite à ouvrir dans Jean 13, du verset 12 au verset 17 que je lis pour vous. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. Depuis la chute de l'homme, donc depuis le péché initial d'Adam et Ève, il y a une chose qui est commune à toute génération. C'est la défiance et la résistance à l'autorité. Je vous rappellerai ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Le diable vient près de Ève et Adam et leur dit, est-ce que c'est vrai que Dieu vous a dit telle chose? Comme quoi, si vous mangez de l'arbre du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez en mourir. Et Ève lui répond, oui, tout à fait, le Seigneur a dit ça. Et le diable va dire, c'est même pas vrai. En fait, si vous en mangez, Dieu sait que vous allez devenir comme des dieux. Et ce faisant, le diable sème dans le cœur d'Adam et Ève une première méfiance envers Dieu, où il va faire passer Dieu pour quelqu'un qui manipule, quelqu'un qui veut tout simplement priver Adam et Ève de leur plein de leur plein essor, de leur plein rendement, de leur pleine capacité. Et de surcroît à cela, il va insuffler en Adam et Ève une racine de rébellion qui va se poursuivre dans toutes les générations qui ont succédé jusqu'à aujourd'hui. À un tel point qu'aujourd'hui, on craint toute notion d'autorité. Assurément, il y a des endroits, il y a des cultures où l'autorité est est une notion plus simple, plus standard. Mais dans les nations occidentales, à cause de toutes les révolutions qui se sont passées et qui ont amené un bon régime politique, au moins dans le sens humain du terme, qui est peut-être le moins pire qui existe, donc un régime démocratique. Mais cette démocratie a été poussée à outrance et vient très régulièrement cacher tout simplement des racines de péché en nous, dans notre nature humaine, quand on vient s'élever contre l'autorité. Assurément, je dis souvent assurément aujourd'hui, bien entendu, il nous faut ramener l'autorité dans ce qu'elle constitue. Et c'est ce qu'on va tenter de faire ce matin. Premier verset, le verset 13. Jésus vient de leur dire, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait. » Donc, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait. » C'est saisir, réaliser ce que Jésus a fait. Et lorsque Jésus va leur expliquer, il n'est pas en train de dire, « J'ai voulu vous aimer, j'ai voulu prendre soin de vous. » J'ai voulu vous montrer comment vous aimez les uns les autres. Non, ce que Jésus va aborder, et c'est très clair, il va aborder l'autorité, puisqu'il dit, vous m'appelez maître et seigneur, vous avez tout à fait raison, et même si je suis maître et seigneur, je vous ai lavé les pieds. Donc Jésus, ce qu'il va enseigner dans le lavement des pieds, est bien plus une question d'autorité plutôt que une question d'amour fraternel. Bien entendu, l'autorité sans amour, c'est de la dictature et c'est du despotisme. Et le Seigneur ne nous a pas appelés, amenés ou enseignés d'aller dans cette voie-là. Donc, pour nous aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'autorité, cette autorité doit être manifestée avec amour, cette autorité doit être vécue avec un cœur rempli de grâce et d'amour. Jésus va dire, vous m'appelez maître et seigneur, vous dites bien, car je le suis. Deux notions ici, maître, didaskalos, donc celui qui enseigne, et seigneur, kyrios, propriétaire, donc didaskalos, D-I-D-A-S-K-A-L-O-S, et Seigneur Kyrios, K-Y-R-I-O-S. J'y vais un peu plus rapidement avec ces termes-là parce que ce sont des termes qu'on a déjà étudiés à plusieurs reprises. Donc Jésus se présente en disant « Je suis effectivement Seigneur et je suis effectivement Maître. » Donc Jésus dit « L'autorité s'assume. » Jésus ne s'est jamais défilé par rapport à son autorité. Et je pense que lorsque le Seigneur place quelqu'un en autorité, il devrait le faire avec aisance, il devrait le faire en assumant le poste, la situation, le positionnement auquel le Seigneur l'a mandaté. Donc oui, assumer la responsabilité qui vient avec et assumer aussi les affres de cette nomination, de ce positionnement-là. Lorsqu'on exerce une autorité, il n'y a pas juste des bons côtés, il y a aussi des côtés moins agréables, mais lorsqu'on accepte de servir le Seigneur dans une position d'autorité, donc on assume. Ici, Jésus va dire, moi j'assume pleinement. Et ce qu'il dit aussi, c'est que vous m'appelez maître et seigneur, donc l'autorité se reconnaît aussi. C'est de part et d'autre, non seulement celui qui reçoit une position, celui qui reçoit un mandat, celui qui reçoit une autorité doit assumer cette autorité, donc il ne peut pas la cacher, Il ne peut pas tout simplement l'enterrer puis dire « Oui, le Seigneur m'a mis en place, mais on va faire un régime démocratique et puis c'est l'ensemble qui vont décider. » Non, à un moment donné, lui doit se positionner en disant « Voici comment nous allons fonctionner, voici comment nous allons opérer. » Toujours en prenant garde de le faire avec amour et avec grâce. Mais l'autorité s'assume et l'autorité se reconnaît. Donc, en contrepartie, lorsqu'effectivement on reconnaît que le Seigneur a appelé quelqu'un, que le Seigneur a positionné quelqu'un dans un poste, dans un mandat, dans une œuvre particulière, ben ceux qui l'entourent aussi reconnaissent cette autorité. Donc non seulement elle doit être assumée, d'une part, de celui à qui l'autorité a été donnée, mais de surcroît à cela, ceux qui vivent autour, ceux qui naviguent ou qui marchent avec cette personne en autorité, doivent aussi reconnaître cette autorité. On ne peut pas tout simplement dire je suis sûr que le Seigneur l'a placé, mais je ne le reconnais pas. Lorsque les disciples se tournaient vers Jésus en l'appelant maître et en l'appelant Seigneur, c'était pas juste du beau blabla, c'était pas tout simplement un beau discours, c'était une reconnaissance officielle comme quoi oui, voici le maître et le Seigneur. Et lorsqu'on ramène ça dans un contexte contemporain, dans un contexte d'église, le pasteur devrait, oui, assumer son poste pastoral. Les personnes en direction devraient, oui, assumer leur position de direction. Mais de surcroît, cela, la congrégation et le peuple qui marche avec eux et le peuple sur lequel le Seigneur a placé ses hommes d'autorité devraient aussi être reconnus par la congrégation. Dans le verset 14, il nous dit « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur, le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Vous m'appelez Seigneur et Maître, vous le dites bien car je le suis. Alors si moi je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. » Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus est tout d'abord en train de dire que l'autorité devrait s'exercer avec une humilité profonde. Hier, on a déjà expliqué comme quoi, dans la tradition judaïque, le rôle le plus bas était de laver les pieds des convives, de laver les pieds des personnes qui habitaient dans la maison ou qui visitaient la maison. On laissait à la personne, à l'esclave, le plus bas de la maison, cette responsabilité-là. Ça veut donc dire que Jésus, lorsqu'il s'est débarrassé de son manteau, de son vêtement pour se ceindre ou s'attacher une serviette autour de la taille et aller laver les pieds de ses disciples, il s'est débarrassé de toute position d'autorité, même si cette autorité-là ne le quittait pas. Mais il a manifesté humilité et grâce en allant effectivement laver les pieds de ses disciples. Donc l'autorité doit être exercée avec beaucoup d'humilité. On doit comprendre que peu importe la position où le Seigneur nous donne. Ici, je ne parle pas simplement des pasteurs, mais je parle de quelques positions qu'on peut avoir dans le corps de Christ. Certains vont exercer une autorité sur une personne, sur deux personnes, parce qu'ils sont chefs de famille ou papa ou maman dans une famille, parce qu'ils sont chefs d'équipe dans un département ou parce qu'ils sont chefs de département ou quoi que ce soit. Donc chacun d'entre nous, à un moment donné ou à un autre, on a une certaine autorité, on a une certaine mainmise sur une personne ou un groupe de personnes, et cette autorité, ce qu'on doit apprendre tant pour toi que pour moi, donc tant pour la personne qui sert à un moindre échelon ou quelqu'un qui, à l'égard de votre humble serviteur, sert en tant que pasteur, on doit faire cela avec humilité. On doit réaliser que peu importe là où je suis positionné, ça ne vient pas de moi, ça ne tient pas de moi. Du jour au lendemain, Dieu peut claquer des doigts et je disparais. Du jour au lendemain, Dieu peut claquer des doigts et toutes les habiletés, tous les talents qu'il a mis en nous disparaissent. Et à ce moment-là, on n'est même plus capable d'exercer quelque fonction que ce soit. Donc même si tu es pasteur, voire même si tu te prétends être tout un tas d'autres choses, tout ce que tu peux être, tout ce que tu es, dépend de la grâce de Dieu et tu le tires de la grâce de Dieu. Donc, tu n'as pas de bretelles à te péter, comme on dit en bon québécois, tu n'as pas de tête à enfler. Non, parce que tout ce que tu es ne vient pas de toi, mais vient de la grâce unique de Christ. Et si demain matin, il veut t'enlever la connaissance, la capacité de parler, la capacité d'exercer un jugement, la capacité de conduire des gens, la capacité de rassembler des gens autour de toi, si Dieu veut t'enlever ces capacités-là, il claque des doigts et c'est fini. Et tout ce que tu avais comme talent, c'est perdu. Donc l'autorité se manifeste dans l'humilité. L'autorité aussi, la Bible nous dit, que vous m'avez appelé Seigneur, donc faites ce que j'ai fait, moi aussi en vous lavant les pieds. Jésus montre son autorité et Jésus est en train de dire, vous devez vous aussi vous apprendre à vous laver les pieds les uns les autres. Qu'est-ce que Jésus enseigne ici? C'est que l'autorité devrait chercher l'unité et la cohésion. L'autorité ne cherche pas à diviser, l'autorité devrait faire en sorte qu'une fois exercée, on trouve au sein d'une congrégation, d'un groupe, la cohésion et l'unité. Je dois vous dire que actuellement, il y a bien des gens qui parlent, il y a bien des gens qui regardent le travail de tout pasteur, dont moi et dont l'ensemble des pasteurs du réseau, et on a tous une opinion. Par rapport à la pandémie, il y a une panoplie de visions. Il y a ceux qui sont complètement sur la gauche et qui disent il faudrait renforcer les mesures sanitaires, exercer un contrôle encore plus sévère et puis exiger à l'entrée de notre congrégation, même si le gouvernement ne le demande pas, exiger le passeport vaccinal. Et en contrepartie, complètement de l'autre côté à droite, il y a ceux qui disent non, tout cela c'est des balivernes, ça n'existe pas et l'autorité de l'Église devrait faire en sorte qu'il n'y ait plus de mesures sanitaires dans l'Église. Donc, pas de masque, pas de distanciation sociale, pas de prise de température à l'entrée et assurément jamais, jamais, jamais de passeport vaccinal pour entrer dans l'Église. Et là, il y a les pasteurs qui sont bombardés par l'ensemble des opinions qui vont de la gauche profonde à la droite profonde, et là je ne fais pas allusion à la politique nécessairement, qui sont bombardés par toutes les idées du prisme qu'il doit y avoir, et la position du pasteur doit être, malgré tout, de garder dans ce temps de division, dans ce temps de singulière fracture au sein de nos regroupements. Il doit essayer, par la grâce que Dieu lui donne, d'obtenir une position qui rassemble les gens. Assurément, il n'y a pas de position parfaite, mais le travail que nous sommes en train de faire est effectivement un travail d'autorité qui cherche unité et cohésion. Et lorsque je suis soumis à une autorité, je me conforme aussi à ce que cette autorité prône et demande, dans le but de ne pas être un agent de division, mais d'être moi aussi, à l'instar de l'autorité pastorale, d'être moi aussi dans l'esprit d'unité qui doit habiter tous les croyants et qui doit habiter, bien entendu, chacun d'entre nous. Donc, il y a quelqu'un qui fait un peu de désordre. J'essaie Donc, juste un instant, il y a quelqu'un qui. Donc, je m'adresse à Zunum Medium et là, vous allez entendre la parole de Dieu et que cette parole vienne brûler tout lien avec l'ennemi et qu'elle puisse amener chez vous la clarté qui vient seulement avec l'Esprit de Dieu et que le sang de Jésus vienne purifier vos pensées et vos agissements actuellement dans le précieux nom de Jésus. Amen. Voilà, on va espérer que ça ne vienne pas bloquer nos choses. Voilà. OK. Alors, continuons. Verset 15 maintenant. Donc, on a vu jusqu'à présent, l'autorité s'assume, l'autorité se reconnaît. Deuxièmement, l'autorité se manifeste dans l'humilité et l'autorité cherche l'unité et la cohésion. De surcroît à cela, au verset 15, Jésus va dire, « Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez ce que je vous ai fait. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez ce que je vous ai fait. » Ce qu'on apprend ici, c'est que l'autorité, un, se manifeste. Je vous ai donné un exemple pour que vous fassiez comme moi, que vous fassiez ce que je vous ai fait. Donc, l'autorité se manifeste et l'autorité s'enseigne. Malheureusement, dans notre culture, parfois, on a peur, en tant que serviteur de Dieu, de parler de l'autorité parce qu'on se dit les gens vont nous traiter de dictateurs, de despotes, de ceci ou de cela. Et très souvent, c'est un sujet qu'on a crainte d'aborder à cause de l'esprit un peu réfractaire que nos sociétés contemporaines peuvent avoir sur la notion d'autorité. Jésus, lui, n'a pas eu crainte. Jésus a dit, l'autorité, je vous l'enseigne et je vous la démontre. Pourquoi l'a-t-il fait? Parce qu'il savait qu'il allait quitter, mais que dans le principe de l'Église et dans la vie de l'Église, l'autorité allait continuer à se manifester. Il n'y a pas juste Jésus et après ça, nous sommes tous sur un même plan d'égalité. Oui, effectivement, nous sommes tous sur un même plan d'égalité concernant le salut, concernant notre état de pécheur et notre besoin d'être sanctifié par le Seigneur, d'être purifié. Nous sommes tous égaux là-dessus. Par contre, nous avons tous des rôles différents dans le corps de Christ, des rôles qui imposent, dans certains cas, un exercice d'autorité, un exercice ou une fonction d'autorité qui vient parfois mettre des cadres, un peu comme dans une armée. Dans une armée, vous n'avez pas que que l'infanterie, vous n'avez pas que des soldats qui vont au front, vous avez aussi des colonels, vous avez aussi des généraux, vous avez des chefs militaires de groupes, donc vous avez des escadrons, vous avez des légions, vous avez des groupes plus gros encore. Donc à chaque niveau, il y a un niveau d'autorité qui s'exerce, il y a quelqu'un qui est positionné. L'Église de Christ est aussi une armée. Et dans cette armée, nous avons aussi l'autorité qui doit être manifestée. Mais celle-ci doit être enseignée, ce qu'on fait aujourd'hui. Et Jésus va dire, afin que vous fassiez comme je vous ai fait, afin que vous appliquiez l'autorité comme moi, je vous l'ai aussi montré. Afin que vous appliquiez l'autorité comme moi, je vous l'ai aussi enseigné. Donc, notre Seigneur est en train de dire, cette autorité doit non seulement être enseignée, doit non seulement être manifestée, affichée, pour que les gens puissent voir quelle est une autorité, comment se pratique une autorité qui est saine, comment se pratique une autorité dans la pensée même, mais de surcroît à cela, pour que par la suite, ça soit aussi reproduit. Parce que toi et moi, là où nous sommes, on est appelés d'un niveau ou à un autre d'exercer une autorité. Donc, l'autorité se manifeste, s'enseigne, se reproduit. Le verset 16 nous dit, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Vous voyez, ça c'est un verset que très régulièrement, on déforme. Jésus dit textuellement, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Nous, très souvent, dans la pensée contemporaine, on aurait plutôt un phrasé qui dirait « Regardez le serviteur » ou « Le Seigneur n'est pas plus grand que son serviteur ». Et ici, Jésus n'y va pas par demi-mesure. Il dit clairement « Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur ». Il veut que ce soit clair, il veut que ce soit précis. « Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur ». Ça veut donc dire effectivement que l'autorité doit être respectée. Celui qui est serviteur doit respecter celui qui est Seigneur. Jésus a dit, même lorsque, en fait, vous allez, parce que là, ses disciples sont à la veille d'un grand changement, dans quelques jours, dans quelques semaines, ils vont passer du statut de disciple au statut d'apôtre. Et ce faisant, ils pourraient effectivement se tourner vers Jésus ou vers leur Seigneur et dire, « Ben maintenant, on n'a plus de Seigneur sur nous, nous sommes apôtres. » Et Jésus leur dit, « Regardez, il faut que ce soit très clair. Un disciple ne sera jamais plus grand que son Seigneur. Donc l'autorité se doit d'être respectée, voire plus encore, l'autorité se doit d'être protégée. » Dans toutes ces attaques, et je ne parle pas pour moi parce que je sais que la congrégation est bonne avec moi, même si dans cette même congrégation, il peut y avoir des mécontents, du mécontentement plutôt, il peut y avoir des gens qui remettent les choses en question, ce qui est correct et ce qui est normal. On n'est pas non plus pour être guidé comme des aveugles, mais il faut qu'on sache quelle position on prend. Il faut comprendre aussi la position pastorale. Et j'espère que ce qu'on fait actuellement vous aide. Toutefois, dans nos églises, il faut aussi protéger l'autorité pastorale qui y est placée. On doit être capable de dire à un frère, à une sœur, qui commence à manifester de la rébellion, qui commence à manifester le fait que moi je me débarrasserais bien de ce pasteur ou moi je contredis ce pasteur. On doit être capable de protéger l'autorité que Dieu a placée sur un homme, sur un conducteur, sur un serviteur. Il est important que l'on puisse effectivement être des protecteurs de l'autorité que Dieu a placée parmi nous. Je pense à différents pasteurs avec qui j'ai communiqué dernièrement et plusieurs d'entre eux passent par des moments difficiles dans leur leadership. Pourquoi? Parce qu'à cause de ce prisme qu'on a mentionné tout à l'heure, de ceux qui ne veulent rien savoir d'un côté à ceux qui ne veulent rien savoir de l'autre côté, ils se font bombarder par différentes idées, par différentes demandes. C'est même plus des suggestions, c'est même plus un appel à réfléchir, c'est plutôt « moi je veux que vous fassiez telle chose et je ne comprends pas que vous ne fassiez pas telle chose ». Mais très souvent, c'est que la brebis ne comprend pas le prisme d'information et le prisme de demandes qui sont lancées et bombardées sur le pasteur. Hier, je vous disais « priez pour vos pasteurs, encouragez-les ». Aujourd'hui, je vous lance l'appel plus loin. Protégez vos pasteurs, protégez leur bien-être, protégez leur mandat, protégez leur onction, protégez leur appel, protégez l'autorité que Dieu a placée sur eux. L'autorité se doit d'être respectée et l'autorité se doit d'être protégée. Lorsque Jésus va dire à ses disciples, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Jésus est en train de dire, protégez ces personnes-là et empêchez la division, la rébellion, l'insurrection qui pourrait se propager dans les cœurs. C'est notre mandat en tant que brebis et en tant que membre du corps de Christ. Verset 17, dernier verset pour aujourd'hui. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Alors ici, Jésus est très clair. Le bonheur va venir du fait que vous pratiquiez ces choses. Heureux, c'est le terme makarios qu'on a déjà étudié, M-A-K-A-R-I-O-S, qui veut dire béni. Donc, vous êtes béni, la bénédiction est sur vous, si vous savez ces choses, si vous connaissez ces choses, donc si vous connaissez la question de l'autorité, et si vous la pratiquez. Alors, si vous êtes en autorité, si vous comprenez que l'autorité doit se faire avec grâce, avec amour et avec humilité, et si vous êtes sous les ordres de quelqu'un, si vous pratiquez la soumission avec amour, avec grâce, avec humilité, et que vous protégez cette notion d'autorité dans le corps de Christ. Si vous savez ces choses, savoir, c'est le terme oïda, oïdéa, qui veut dire avoir connaissance, saisir une chose, comprendre une chose. Donc l'autorité, oui, s'apprend. Elle s'enseigne, mais elle s'apprend aussi. Encore faut-il que la personne qui reçoit l'enseignement veuille l'apprendre. De surcroît à ça, l'autorité attire la bénédiction. L'autorité bien faite, bien placée, bien disposée, attire la bénédiction. Et l'autorité bien reçue, la soumission si vous voulez, bien exercée, va aussi attirer la bénédiction. Alors je ne sais pas où vous en êtes. Ce qui est certain par contre, c'est que d'une part, on est tous en autorité sur certaines personnes, et d'autre part, on est tous soumis à des autorités. Alors de part et d'autre, nous sommes appelés non seulement à exercer une autorité digne de la parole de Dieu, digne de l'exemple que Jésus va nous donner en s'abaissant et en lavant les pieds de ses disciples, et de surcroît à cela, on est aussi appelé à exercer la soumission ou à se soumettre à l'autorité, comme le disciple qui se soumet à son Seigneur ou le serviteur qui se soumet à son Seigneur, et comme l'apôtre se soumet à celui qui l'a envoyé. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. Qu'est-ce qu'on a vu brièvement? Deux points dans chacun des cinq versets. Un, dans le verset 13, l'autorité s'assume, mais l'autorité se reconnaît aussi. Deuxièmement, l'autorité se manifeste avec humilité et l'autorité doit chercher l'unité et la cohésion parmi le groupe. Verset 15, l'autorité se manifeste et s'enseigne, elle se démontre et elle s'enseigne, et l'autorité se reproduit, on imite et on reproduit l'autorité. Verset 16, l'autorité se doit d'être respectée et l'autorité se doit d'être protégée. Et le verset 17, l'autorité, si elle sait, elle est enseignable, comme on l'a vu au verset 15, au verset 17, l'autorité s'apprend et l'autorité attire la bénédiction. Alors Jésus a dit à ses disciples, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Il pourrait nous dire la même chose ce matin. Comprenez-vous ce qu'on a mentionné ce matin? On a parlé du principe de l'autorité. Et là, le grand questionnement, est-ce qu'on comprend ce que la Bible nous enseigne sur l'autorité, sur comment elle s'exerce et comment on répond à l'autorité? Alors, prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour cet enseignement de ce matin qui est approprié dans le contexte que l'on peut vivre actuellement, qui est assurément d'actualité. Un des grands malheurs, Seigneur, de la COVID, au-delà, Seigneur, des gens qui en meurent et qui passent dans l'éternité sans te connaître, des gens qui tombent malades sur de longues périodes et dont on ne peut même savoir quelles seront les séquelles à long terme. Un des drames, Seigneur, de la COVID, c'est que la COVID est venue dans le peuple, non pas en unissant l'Église, mais en la fractionnant. Le diable a utilisé la COVID pour fractionner. On a vu des couples qui se défont. On a vu des familles qui se défont. On a vu aussi des gens qui quittent les églises sur prétexte de COVID, sous prétexte qu'on n'est pas d'accord avec comment on gère la question de la COVID au sein de la congrégation locale. Je te prie, Seigneur, de parler au cœur de tout un chacun, de nous accorder, parce que tu m'as accordé cette grâce, ce privilège d'être pasteur au sein d'une congrégation et au sein d'un réseau de congrégations. Je prie, Seigneur, que tu m'accordes la sagesse à moi et à ceux que tu as placés à mes côtés pour m'épauler, pour m'assister et pour travailler, Seigneur, avec moi, notamment dans cette équipe pastorale que nous avons. Que tu nous accordes la sagesse dans comment mener les choses, afin qu'effectivement, l'autorité qu'on exerce puisse chercher l'unité et la cohésion dans le groupe, plutôt, Seigneur, que la division, la séparation et le parti pris. Je prie aussi, Seigneur, parce qu'on est tous soumis à un endroit ou à un autre, à d'autres personnes, alors que tu nous apprennes aussi, Seigneur, à exercer la soumission comme il se doit. L'Église de Béré, oui, allait voir si les choses qui leur étaient enseignées étaient bibliques ou non. Mais l'Église de Béré n'a jamais été exposée comme une Église qui va prétendre se diviser, se séparer à cause d'une orthodoxie latente dans un endroit ou dans un autre, et encore moins à cause de la persécution ou à cause d'une maladie. En fait, Seigneur, même lorsque tu vas dire à l'Église de ne pas abandonner leur assemblée, comme c'est la coutume de certains, tu dis cela, Seigneur, dans Hébreux, à une congrégation que tu vas expliquer dans les chapitres suivants comme exposée à la tribulation, exposée aux martyrs, exposée aux attaques. Et tu leur dis qu'en dépit de toute la maltraitance qu'ils peuvent subir, en dépit de la difficulté du moment présent, tu demandes, Seigneur, à ces croyants de ne pas abandonner l'assemblée locale, comme c'est déjà la coutume de certains. Alors je prie, Seigneur, que tu nous parles à tout un chacun, que tu trouves en nous un cœur qui t'est docile, que tu trouves en nous, Seigneur, un cœur qui t'est soumis, afin, Seigneur, que face à ta parole, que tu éclaires et que tu propages dans notre esprit, dans notre âme, dans notre être tout entier, tu ne puisses recevoir, Seigneur, qu'approbation. Et tu ne puisses avoir, Seigneur, que nos cœurs qui s'unissent à ta pensée et qui obéissent à ta volonté. Alors je prie pour ma sœur, parle à ma sœur. Je prie pour mon frère, parle à mon frère et accomplis ta parfaite volonté par nous et à travers nous. Nous t'avons prié dans le précieux, glorieux et merveilleux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On continue demain cette même étude du chapitre 13 de Jean. On vous rappelle que ce soir, il y a étude biblique, donc à 19h, heure de Montréal, sur cette page Facebook, mais aussi sur toutes les plateformes que l'Église utilise le mercredi soir. On va en grand, on utilise toutes les plateformes, donc on se retrouve ce mercredi soir, donc ce soir, 19h. De surcroît à cela, les inscriptions pour l'Assemblée de dimanche ont cours actuellement. Donc, on vous invite à appeler ou à écrire au secrétariat de l'Église à travers le courriel et non pas à travers Facebook ou à travers Messenger, mais vraiment à travers le courriel. Sinon, vous appelez, vous laissez un message sur la boîte vocale de l'Église pour nous donner votre nom et le nom de toute personne qui vous accompagnerait ce dimanche pour l'Assemblée. Alors, sur ce, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur puisse nous parler à tout un chacun et qu'il nous trouve disposés à accomplir sa volonté. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. On se retrouve ce soir, 19h. Au revoir tout le monde.